Timothée, qui est responsable de l'église d'Éphèse, en Asie mineure. Et Paul écrit ceci. C'est lui, donc Dieu, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort. Dieu nous a sauvés. Mais de quoi ? Du mal. Du mal qui se manifeste par cette puissance de la mort. Alors si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous croyons Dieu sur parole, c'est le cas de le dire. Nous avons décidé d'avoir foi en lui et nous avons expérimenté les bienfaits qu'il nous accorde. Alors bien sûr, nous pouvons traverser encore des circonstances très pénibles, mais la présence de Dieu à nos côtés nous encourage à continuer notre route. Et puis surtout, nous savons que Dieu sera présent également au-delà de notre propre mort. Nous pourrons donc vivre dans la paix qu'il nous donne. Alors ce premier chant rappelle tout ce que Jésus a traversé comme épreuve pour nous offrir ce salut.
Je serai parmi les... chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire à toi, ô Dieu.
Le chant suivant nous rappelle que personne n'est aussi grand et puissant que Dieu. Il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Il est merveilleux dans tout ce qu'il est. Salut de qui il est, accordons-lui notre confiance. Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur, alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie pour qu'un jour je voie Dieu moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi,
j'ai confiance en toi. Puisque maintenant tu es vivant, puisque maintenant tu es puissant, parce que tu me dis ne crains pas, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi.
Voilà les enfants, vous pourrez rejoindre vos groupes de l'école du dimanche, mais avant, j'aimerais prier pour vous. D'accord ? Et pour les moniteurs aussi. Oui, Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre les enfants, nos enfants, les enfants de cette communauté, Seigneur Jésus. Tu puisses te révéler à eux, Seigneur, qu'ils voient combien tu les aimes. Et Seigneur, merci aussi pour Zena et Nicolas aujourd'hui. Seigneur, tu les bénisses aussi, que tu les renouvelles. Tu leur donnes la joie d'être avec tous ces mioches. Et Seigneur, que tu les bénisses tous ensemble. Alors Seigneur, tu puisses te révéler à eux. Amen. Voilà, vous pouvez rejoindre Zena et Nicolas. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est Boris qui va nous guider. On va cheminer avec Boris, non pas sur Compostelle, mais sur Ésaïe. Donc, Boris... Donc, fait une prédication, mais modeste, et il laisse la place au texte. Donc, écoutez bien les paroles, écoutez bien les textes, et imprégnez-vous de cette Ésaïe, de ce livre de prophète Ésaïe, ainsi que cette corrélation qu'il y a avec le Nouveau Testament, avec l'Évangile, avec la venue de Jésus.
Alors tu diras ce jour-là, « Seigneur, je veux te louer. Tu étais en colère contre moi, mais tu ne m'en veux plus. Tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité, je n'ai plus peur, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, « Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu. » Annoncez aux autres peuples quels sont ses exploits. Rappelez à tous quel grand nom est le sien. Célébrez le Seigneur par vos chants, car il a fait de grandes choses. Faites-les connaître dans le monde entier. Population de Sion, manifeste ta joie, pousse des cris d'enthousiasme, car il est grand celui qui est au milieu de toi, le Dieu d'Israël qui est saint.
Chaque été, nous revenons de cette période enrichie, des lieux que nous avons découverts, des expériences nouvelles que nous avons vécues, des rencontres que nous avons faites, de la vie familiale qui se développe et de nouvelles vérités que nous avons apprises sur Dieu et sur nous-mêmes. Cet été, j'ai repris la lecture des chapitres 40 à 66 d'Ésaïe, et j'ai été interpellé par leur image puissante et le cœur à cœur que Dieu engage avec son peuple, avec celui qui le cherche. Ces textes, bien qu'adressés en premier lieu à l'Israël de l'époque, montrent la fidélité de Dieu à l'égard de son peuple et rejoignent ma vie de disciple dans mon quotidien. Le Dieu qui conduisit Israël de l'esclavage à la liberté me rejoignent dans ce que je vis en Jésus aujourd'hui. Ces chapitres me parlent de mes révoltes et de mes rébellions, mais ils révèlent aussi comment la grâce divine les transforme en pardon et en renouveau, établissant un véritable cœur à cœur avec notre Créateur, avec Jésus le Messie qui a donné sa vie à notre place. Dieu sauve, voilà ce que signifie le nom d'Ésaïe en hébreu. Et cette phrase pourrait servir à l'ensemble du livre qui porte son nom. Un livre si riche qu'au Moyen Âge, Ésaïe était considéré comme le précurseur de Matthieu, et que le traducteur de la Bible, de la Vulgate, Jérôme, a dit que c'était le cinquième évangile. Handel puisera 21 fois des 80 fois des versets qu'il emploie dans le Messie. Et croyants et incroyants se trouvent encore aujourd'hui un écart fulgurant pour espérer et pour vivre. Ésaïe est né dans une famille proche du pouvoir de Jérusalem. Il interagit régulièrement avec les rois et leur entourage. Son ministère de plus de 40 ans débute en 740 environ avant Jésus-Christ. C'est 10 ans après la fondation de la ville de Rome. Il traverse les bouleversements géopolitiques de son époque, la décadence de l'Égypte qui part de son influence, la montée menaçante de l'Assyrie et de Babylone, et surtout, en l'an 722, la chute de Samarie et l'exil définitif du royaume du Nord. Il doit l'avoir vécu avec ses tripes. Il meurt âgé, entre 700 et 680 avant Jésus-Christ. Les 39 premiers chapitres du livre relatent cette période troublée. Ces chapitres sont centrés sur les jugements contre Israël et les nations, la Syrie, Babylone, la Moab, la Syrie, l'Éthiopie, la Philistie, l'Égypte. Ces jugements sont régulièrement accompagnés de pardon et de restauration. Mais c'est à partir du chapitre 40 que le ton change en quelque sorte. Dans cette seconde partie magistrale, Ésaïe discerne la suite des événements et console Israël en dévoilant la libération que Dieu va accomplir, ce que pour nous pointe vers Jésus. La Tob, la traduction œcuménique de la Bible, identifie trois mouvements fondamentaux qui structurent plus particulièrement cette section. De l'aveuglement à la lumière, de l'endurcissement du cœur à la foi, de la justice morale à observer, au salut à recevoir. C'est dans cette dynamique que nous voulons nous plonger dans la lecture choisie des chapitres 40 à 66. Ces textes aux images puissantes révèlent le cœur à cœur entre Dieu et son peuple, hier comme aujourd'hui. Notre condition, Dieu nous crée, mais nous nous sommes révoltés et adorons des idoles. Dans un premier temps, nous voulons découvrir la grandeur infinie du Dieu créateur, ainsi que la fragilité humaine. Entre ces deux réalités se déploie le drame de nos idoles, l'atrie et de nos révoltes, mais aussi la promesse extraordinaire d'un Dieu qui nous soutient notre vie entière. Écoutons ensemble cette tension entre notre humanité et sa fidélité.
Une voix dit : Crie ! Et il répond : Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu, de notre Dieu, subsiste éternellement.
Qui a mesuré dans le creux de sa main les eaux des mers? Qui a évalué de ses doigts écartés le diamètre des cieux? Qui a pesé sur la balance les montagnes et les collines? Qui a pris la mesure de l'Esprit du Seigneur? Quel confident Dieu a-t-il instruit de son projet? Devant le Seigneur, les peuples ne comptent pas plus qu'une goutte d'eau qui tombe dans un seau ou qu'un grain de sable dans le plateau d'une balance. Tout le gibier du Liban ne suffirait pas pour lui offrir un sacrifice digne de lui. Les peuples, tous ensemble, ne font pas le poids devant lui. Ils comptent pour moins que rien.
Regardez les cieux là-haut. Voyez qui a créé les étoiles. Qui les fait sortir au complet comme une armée de la parade. Il les appelle toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel.
Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus important que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne ramassent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas plus, pas beaucoup plus que les oiseaux?
Nous avançons en tâtonnant comme un aveugle près d'un mur. Nous hésitons comme quelqu'un qui ne voit pas où il va. En plein midi, nous trébuchons comme à la tombée de la nuit. Nous sommes en bonne santé, mais nous ne valons pas mieux que les morts. En effet, bien souvent, Seigneur, nous t'avons désobéi.
Nos fautes nous accusent.
Nos révoltes collent à nous. Nous savons bien quels sont nos torts.
Nous t'avons désobéi.
Nous t'avons trahi.
Nous avons refusé de te suivre.
Toi, notre Dieu, le Seigneur a bien vu tout ce qui se passait. Il n'a pas accepté que le droit soit foulé aux pieds.
L'apôtre Paul le dit ainsi dans l'Épître aux Romains. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Les fabricants d'idoles ne sont rien. Et leurs chers objets ne servent absolument à rien. Ce sont leurs témoins à eux, mais des témoins qui ne voient rien, qui ne savent rien et qui les laisseront bien déçus. Fabriquer un dieu, mouler une idole qui ne servira à rien, quelle sottise! Avec l'autre moitié de la bûche, ils se fabriquent un dieu, leur idole. Ils s'inclinent, se prosternent devant elle et lui adressent cette prière. « Tu es mon Dieu, délivre-moi !» Ces gens n'ont rien dans la tête. Ils ne comprennent rien. Ce que je tiens dans la main, ce n'est qu'un faux Dieu, c'est évident.
Écoutez-moi, gens d'Israël, survivants du peuple de Jacob, vous dont je me suis chargé dès le ventre de votre mère, vous que j'ai porté avant que vous ayez vu le jour. Je resterai là même jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai fait. C'est moi qui vous porterai. Oui, je me chargerai de vous et je vous sauverai.
Et pourtant, Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Tu nous as tous façonnés.
Seigneur, pardonne mon idolâtrie. Permets-moi de vivre pour le Dieu vivant. La grâce infinie, dans sa grâce infinie, Dieu cherche chacun d'entre nous. Après avoir entendu la grandeur du Dieu créateur et reconnu nos révoltes, Ésaïe nous révèle maintenant l'invitation de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez. Face à nos vains efforts pour nous rassasier, Dieu ouvre grand ses bras et propose gratuitement ce qui seul peut combler nos âmes assoiffées.
Allons. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau.
Venez.
Même si vous n'avez pas d'argent, venez.
Venez.
Prenez de quoi manger, c'est gratuit.
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous donner du mal pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez ce qui est bon. Vous vous régalerez de ce qui est meilleur. Accordez-moi votre attention. Et venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez.
Recherchez le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que la personne méchante renonce à ses pratiques qu'il revienne au Seigneur, car il aura de la tendresse pour lui. Qu'il revienne à notre Dieu, car il accorde un large pardon. »
En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. Eh bien, il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé.
Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. »
Le Seigneur avait dit : Réparez le chemin, dépêchez-vous, ouvrez la voie, enlevez les obstacles devant les pas de mon peuple. Or, voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint.
Moi, je suis vraiment Dieu. J'habite là-haut, mais je suis aussi avec ceux qui se trouvent accablés et humiliés, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. Car ce n'est pas sans fin que je fais des reproches, ni pour toujours que je reste irrité. Sinon, tous ceux que j'ai créés perdraient le souffle de la vie.
Je connais bien sa conduite. Pourtant, je le guérirai, je le guiderai, je le réconforterai. Quant à ceux qui portaient le deuil, je mettrai sur leurs lèvres des acclamations de joie. Je donne la paix à ceux qui sont loin comme à ceux qui sont proches. Oui, je guérirai mon peuple.
L'apôtre Paul interprète les paroles d'Ésaïe ainsi. Vous étiez à ce moment-là sans Christ. Vous étiez étrangers. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, par l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors loin, vous avez été rapprochés par le Christ qui a versé son sang. Oui, c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait de ceux qui sont juifs et de ceux qui ne le sont pas un seul peuple.
La relation intime, Dieu veut nous connaître. De l'invitation à étancher notre soif, Dieu révèle son amour personnel pour chacun de nous. Comme un berger qui connaît ses brebis par leur nom, il nous guide à travers les eaux et le feu.
Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur, te déclare.
N'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai appelé personnellement, tu m'appartiens.
Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noyeras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas, les flammes ne t'atteindront pas.
Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu Saint d'Israël, je suis ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur pour moi et je t'aime. Donc, je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi.
Dieu est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et ménage les brebis qui allaitent des petits.
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre.
Jésus leur dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix.
la transformation de la révolte à l'alliance. Nous sommes tous invités à entrer dans son alliance nouvelle pour nous. Mon amour pour toi ne changera jamais. Par Jésus, Dieu nous ouvre une relation nouvelle, imagée ici par sa maison de prière, ouverte à tous les peuples, à toutes les nations, établissant une intimité nouvelle où ses lois ne sont plus écrites sur des tables de pierre, mais dans nos cœurs de chair. Cette alliance du pardon et d'une relation d'amitié avec Jésus.
Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais, et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse.
Voici ce que le Seigneur déclare. Respectez le droit, pratiquez la justice, car le salut que j'apporte est proche et ma justice est sur le point de se révéler. Quant aux étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer et pour l'aimer, pour être ses serviteurs, s'ils demeurent fermement attachés à mon alliance, alors je les ferai venir sur la montagne qui m'appartient. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples.
L'épître des Hébreux le dit de la façon suivante. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je me souviendrai plus de leurs péchés.
Les fruits, Dieu nous donne de la joie, de la paix, il remplit de lumière nos ténèbres. L'alliance est scellée en Jésus, nous pouvons nous tenir debout. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ésaïe emploie l'image de l'amour maternel le plus tendre, nous portant comme un enfant sur ses genoux, montrant le soin que Dieu a pour chacun d'entre nous. Ces deux derniers millénaires, des personnes de toute nation, de tout peuple, accourent vers lui et leur cœur retrouve la joie d'une relation nouvelle qui se concrétise en Jésus.
Lève-toi! Sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît.
Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras.
Voici en effet ce que déclare le Seigneur. Je vais diriger vers Jérusalem un fleuve de bienfaits et la richesse du monde comme un terrain, un torrent qui déborde. Et je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allait. Je vous porterai sur la hanche et je vous cajolerai sur mes genoux. Oui, comme une mère qui console son enfant, moi aussi je vous consolerai. Et c'est à Jérusalem que vous serez consolés. Oui, vous connaîtrez ce moment-là. Votre cœur sera dans la joie et vos vieux os reprendront vie comme l'herbe au printemps.
Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
La nouvelle création. Dieu nous recrée et nous forme comme de nouvelles personnes prêtes à le servir et à être ses témoins. Nous arrivons à la fin de notre parcours. N'aie pas peur, je t'ai formé. De la fragilité humaine à une relation nouvelle, Ésaïe fait pointer nos regards vers Jésus. La promesse une relation nouvelle avec notre Créateur traverse la Bible entière. Par son esprit, nous devenons de nouvelles créations, ambassadeurs de réconciliation. L'invitation demeure, laissez-vous transformer par celui qui fait toutes choses nouvelles.
Mais maintenant, écoutez bien, peuple de Jacob, mon serviteur Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que je déclare, moi, le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé quand tu étais encore dans le ventre de ta mère et qui vient à ton aide. N'aie pas peur, peuple de Jacob, toi, mon serviteur.
Car j'arroserai le pays qui meurt de soif et je ferai couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Ils pousseront comme en pleine verdure, comme des saules sur le bord des ruisseaux.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu.
Jésus leur dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est de proclamer aux captifs qu'ils seront libres désormais. J'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. Alors, on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. »
Jésus leur dit, « Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils deviendront parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'aimais avant la création du monde. »
Amen.
Je vous propose que nous restions dans Ésaïe pour l'introduction de cette sainte scène et on affichera tout à l'heure quelques versets du poème d'Ésaïe au chapitre 53. Et ce poème d'Ésaïe sur le serviteur souffrant est très célèbre. Dans la tradition juive, les épreuves du serviteur ont été mises en rapport avec celles du peuple d'Israël, méprisées, rejetées, ou encore avec celle des justes persécutés. parfois transfiguré, le serviteur intercède pour les péchés d'Israël et triomphe de ses ennemis. Dans les évangiles, le poème en son entier est, avec le psaume 22, une clé de lecture de la passion de Jésus. De plus, il permet d'interpréter le sens des guérisons, de la mort et de toute la mission de Jésus et de ses disciples. Et grâce à ce texte, nous voyons mieux comment s'articule le refus des croyants juifs et la nécessité d'évangéliser les non-juifs. Enfin, il invite à contempler le salut donné et à suivre le Christ. Et pour conclure un petit peu cette introduction, je vous lirai dans 1 Pierre. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nous lirons l'institution de la Sainte Cène.
Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est fait pour vous, il est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour.
Seigneur, c'est de notre fardeau, de nos péchés que tu t'es chargé. Et nous avons, grâce à ça, la vie éternelle, Seigneur. Que nous puissions contempler cet événement, mais aussi avoir de la joie pour ce que tu as accompli. Parce que nous sommes réconciliés avec notre Créateur. Nous pourrons nous tenir debout devant toi. Merci Père pour avoir donné ton Fils en sacrifice pour un grand nombre de personnes. Amen.
Alors comme d'habitude, nous avons les petits flacons. Voilà, vous avez le slide qui est là. Je vous laisse en prendre connaissance. Et ensuite, ce que je vais vous proposer pendant cette sainte scène, on va laisser 2 ou 3 versets de ce Ésaïe 53. Et je vous propose de le méditer en prenant la sainte scène. Et s'il vous inspire une prière, qu'elle soit à voix haute ou intérieure, ben lâchez prise et partagez-le avec la communauté. Alors il y aura ce verset que va mettre Roxane, c'est 2 ou 3 versets et ça représente un petit peu ce poème de Ésaïe 53. Et ceux qui le souhaitent, donc pour boire à la coupe, levez la main et Boris viendra vous amener la coupe.
Oui, Seigneur, le mal s'est acharné sur toi au point de tout te prendre, y compris ta vie. Et ouais, c'est incroyable que tu te sois laissé dépouiller pour nous. Et comme cela n'était pas juste, parce que toi tu étais juste. Dieu t'a ressuscité et tu nous fais bénéficier aussi de ta résurrection. Alors voilà, je suis loin d'avoir tout compris, mais aide-moi aussi à ouais, lâcher prise par rapport au mal, dans le sens de ouais, pardonner pour que la mort ne soit plus, pour que voilà, le mal n'aille pas plus loin. Aide-moi à résister de cette manière-là au mal. Amen.
Seigneur Jésus, nous voulons aussi être reconnaissants, reconnaissants de ce sacrifice que toi tu as fait pour nous. C'est vrai, Seigneur, qu'il y avait cette coupure avec notre Dieu, avec notre Père, et c'est grâce à toi que nous avons pu renouer avec notre Papa. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ce sacrifice, merci pour ce bois. Merci aussi pour cette résurrection, Seigneur, qui nous donne une vie nouvelle et une relation nouvelle avec Dieu, avec notre Père, et Seigneur, qui nous donne aussi une espérance nouvelle où la mort n'a plus sa place. Alors, Seigneur Jésus, bénis, rejoins-nous par ton Esprit Saint, rejoins nos cellules, notre corps, notre tête, notre cœur, pour échanger notre cœur de pierre contre un cœur de chair. Et c'est vrai que, Seigneur, j'aime beaucoup cette expression d'avoir un cœur de chair. Alors que, Seigneur, tu nous bénisses au travers aussi de cette sainte scène, que nous soyons reconnaissants et sensibles que ce sang qui a coulé, ce n'était pas pour rien, mais c'était pour chacun d'entre nous. Et ça, Seigneur, c'est une richesse de nous croyants, enfants de Dieu et frères de Jésus, frères et sœurs de Jésus. Amen. Je vous propose de vous lever pour chanter « Christ est ma lumière ».
Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu.
C'est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui
Alors nous aurons maintenant un temps d'offrande. Alors c'est sûr qu'il n'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'elle fait vivre notre Église. Donc faites-y bon accueil. Et puis pendant ce temps, je vais vous dire quelques annonces. Donc si il y a les pochettes, autrement il y a le code QR, si jamais il y a d'autres moyens que vous pouvez, si vous le souhaitez. Au niveau des annonces, donc la première, c'est Mathieu Schmitt, donc qui a repris le flambeau de Claire-Lise par rapport au nettoyage. Donc il remercie chacune et chacun pour vous être impliqués dans cette tâche qui est bien utile pour notre Église. La deuxième annonce, donc le programme septembre-octobre est arrivé, donc version papier, vous avez là aussi la version électronique, mais aussi vous avez la version papier qui se trouve à la sortie sur le présentoir. Mardi 3 septembre, donc il y a la prière communautaire, c'est le 2, pardon, alors le 2 septembre. Par contre, aussi, attention, l'heure a changé, ce n'est plus de 20h à 21h, mais c'est de 17h à 18h30. Donc la réunion communautaire de prière, donc mardi de 17h, mercredi, décidément, de 17h à 18h30. Et puis peut-être une dernière annonce, donc le 21 septembre, nous aurons le culte d'installation de ces deux personnes que vous reconnaissez sûrement. Donc, il a été envoyé un petit courriel informatique pour vous inscrire. Il faut s'inscrire, c'est sur inscription. Mais vous avez aussi, ici, sur une table, une feuille papier pour ceux qui ont Internet, c'est un peu compliqué. Donc, c'est Sylvain. Vous pouvez aller vous adresser vers Sylvain pour remplir si vous avez quelques soucis. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres annonces. Alors, si ce n'est pas le cas, je vais prier pour l'offrande. Et après, nous nous lèverons pour la bénédiction. Seigneur Jésus, oui, merci pour ce sacrifice. Merci aussi pour ce retour que nous pouvons te faire. Alors, c'est vrai, Seigneur, qu'il est bien, il est bien humble. Mais Seigneur, nous voulons le donner de tout notre cœur. Et Seigneur, comme on disait avant, que ce cœur de pierre soit changé en cœur de chair. Et Seigneur, nous voulons vraiment que notre cœur de chair puisse contribuer aussi à transmettre ta parole, Seigneur, à ceux qui en ont besoin. Alors merci pour cette offrande. Merci aussi pour notre Église, Seigneur, pour ceux qui gèrent cette offrande. Pour ceux aussi qui gèrent notre Église spirituellement. Seigneur, que tu sois avec eux. Et Seigneur, que tu bénisses chacun avec de la joie, avec du service aussi, de l'humilité, mais aussi avec beaucoup de joie. Alors Seigneur, nous voulons te remettre cette offrande au nom de Jésus. Amen. Je me demande...
C'est par ces paroles d'Ésaïe que le Christ veut vous accompagner cette semaine. Il donne sa force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que la paix de Christ vous accompagne. Amen.
Alors restez encore un petit moment pour un café, donc un petit moment convivial que vous pouvez vivre ensemble. Donc il y a un petit café et puis on souhaite vraiment à chacun, à chacune un bon dimanche.